Il est l'heure de retrouver Un moment pour la Terre, cette émission réalisée avec les membres de France Nature Environnement 04. Aujourd'hui, il sera question de jardinage bio avec Mario Chabanon. C'est dans une petite minute. À tout de suite. Bonjour Mario Chabanon, bienvenue à Fréquence Mistral pour cette émission donc mensuelle.
Bonjour. Bon, je ne vais pas vous parler du jardinage comme on peut le voir dans les livres, on peut le lire, mais plutôt des astuces que j'ai pu découvrir tout au long de ma vie de jardinier. Au départ, mon terrain faisait 10 mètres de large sur 60 mètres de long. C'est une terre lourde, argileuse. À côté, il y avait même une tuyère et un peu plus bas, un four très très ancien. Donc, sur les 40 premiers mètres, j'ai planté des arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, noisetiers. Et sur le reste du terrain, j'ai essayé de créer mon potager. Pour planter les arbres, après une grosse pluie de plusieurs jours, j'ai posé des grands cartons épais avec par-dessus beaucoup de feuilles. Et ce qui m'a permis, au bout de quelques mois, de creuser les trous pour chaque arbre avec plus de facilité. Au fond du trou, j'ai mis, sur les conseils de Albel, un ancien paysan plein d'expérience, une poignée d'orge. Voilà, cette orge, après, dans un deuxième temps, commence à pousser. Et puis, comme il est sous terre, il meurt, mais ça donne de l'énergie pour l'arbre et ça réchauffe un peu le fond du trou. Voilà, donc, au fond du trou, j'ai disposé un tuyau, une sorte de plumoute, on peut utiliser, de façon à ce que, lorsque j'arrose, l'humidité va en dessous, ce qui me permet de ne pas arroser en surface, parce qu'en surface, on le sait très bien, l'eau s'évapore. Et puis, il y a un phénomène, les petits radicelles remontent à la surface pour venir chercher l'eau quand vous arrosez traditionnellement. Alors que moi, les radicelles, ils descendent en sous-sol. Ça fait que s'il y a une sécheresse ou si on oublie d'arroser pendant quelque temps, eh bien, il n'y a pas de stress hydrique et les radicelles et les racines continuent à plonger vers le bas et ça protège l'arbre. Après, par-dessus, bien sûr, je fais une couverture avec du broyat, ce qui limite encore plus les évaporations. Alors, les techniciens nous disent qu'il faut arroser pas souvent, mais en grande quantité, en surface. Mais je trouve que c'est plus efficace d'essayer d'arroser en sous-sol. D'ailleurs, une de mes amies qui est allée en Inde m'avait expliqué que là-bas, ou dans un endroit où il fait très chaud et sec, ils arrosent comme ça. Ils mettent un tuyau souterrain avec un petit réservoir en surface pour ne pas avoir à arroser en surface, quoi. Voilà. Donc j'ai planté donc là quelques arbres dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, j'ai pu acquérir un terrain juste à côté, ce qui m'a permis de faire toute une, j'appelle ça une haie sauvage, c'est-à-dire que j'ai fait des plantations en quinconce. De façon à ce que ce soit pas régulier, que ça fasse un peu sauvage, comme je dis. Alors là, j'ai planté des lilas, des cognassiers, du jasmin, prunier sauvage, des noisetiers, des sumacs, tamaris, érables, bambou, seringa, forsythia et altea. Il y en a d'autres que j'ai dû oublier d'ailleurs. Tous ces arbres, de façon à ce que ça puisse fleurir un peu en alternance et que ça fasse un peu décoratif, quoi. Et au milieu de ces 1600 mètres carrés, j'ai planté des cèdres, des frênes, un micoucoulier, un nif, un beau sol pleureur, un bouleau et des érables. Mais aussi des arbres fruitiers comme le néflier, le pêcher de vigne, le grenadier, les figuiers et même un concoit. Un concoit, pardon. Voilà, dans ce milieu varié, j'ai installé différents nichoirs à mésanges, rouge-gorge et rouge-queue, un petit duc, hulotte et des chauves-souris aussi. Les merles, les troglodytes et les fauvettes peuvent se cacher dans les éléanus qui sont toujours en feuille et ils peuvent se dissimuler là-dedans. Je ne suis pas un adepte du Green Club, donc l'herbe pousse à volonté. Dans cette pampa, moult insectes peuvent évoluer à leur guise. Je vois souvent déambuler les petits lézards gris, des orvets, des lézards verts, des couleuvres. Ils arrivent toujours à se planquer dans du bois mort. Il faut savoir que les plantes qui poussent comme ça à l'état sauvage, elles sont là pour compenser des défauts du sol. Donc souvent on peut s'apercevoir qu'il y a une évolution. Au début il y a certaines plantes et puis après on les voit disparaître et puis il y a d'autres plantes qui viennent. Et c'est pour compenser les problèmes du sol. Voilà, on ne choisit pas toujours l'implantation, l'exposition de son potager. Mais si l'on peut avoir une partie plein soleil et une partie mi-ombre, c'est bien. Il faut pouvoir faire une rotation en fonction des saisons. Par exemple, on ne va pas faire pousser des salades au soleil en plein été. À l'abri des éléanus, j'ai pu planter des framboisiers et des fraisiers. Comme ça, ils sont un peu protégés du soleil. Et il faut pouvoir se protéger aussi du mistral. Mistral, dans ma vallée, c'est un vent dominant. Ils viennent de l'ouest. Mais aussi, il y a de grosses rafales en vent d'est qui sont souvent fortes. Et c'est ce qui nous amène la pluie. Donc, c'est bien de pouvoir se protéger ou par des arbres ou par des petits murets, si c'est possible, quoi. Moi, j'avoue qu'il y avait mon voisin qui avait planté des arbres et ça m'a permis de me protéger, de faire un petit coin tout sympa pour le jardin potager.
Alors, pour le jardin, c'est toujours intéressant de savoir, il y a des légumes ou des fruits qu'il vaut mieux planter plus à l'ombre que d'autres. Comment on gère ce...
Moi, j'avoue que je l'ai fait par expérience. C'est vrai que, bon, comme je disais, les salades en plein soleil, ça marche pas en plein été, c'est sûr. Mmh. Mais je m'en suis aperçu parce que j'ai essayé de les planter. Et puis, il y a une évolution du climat aussi. Il fait de plus en plus chaud. Donc, il faut s'adapter, quoi. Hein. Les tomates, elles ont besoin de soleil, par exemple. Mais je me suis aperçu depuis quelque temps que les plantes tomates qui étaient plantées à l'ombre, ils poussaient mieux.
Ah oui.
À la mi-ombre, on va pas dire plein ombre, mais à la mi-ombre, ça poussait mieux. Voilà, donc il faut un peu s'adapter. C'est sûr que il vaut mieux essayer au départ d'utiliser les techniques qui sont promulguées dans les livres. mais il y a une évolution. Chaque terrain aussi a sa façon de chaque jardinier a sa façon de cultiver et qui sera différente du voisin ou surtout de notre terrain, de notre endroit où il y a plus de vent, où il y a plus de soleil. Tout est, il faut faire un peu son expérience.
Est-ce que vous pouvez m'aiguiller sur, on constate nous, nos tomates, souvent, elles pourrissent par le dessous, alors qu'elles sont très goûteuses, mais il y a toujours une tache marron qui se forme en...
Eh oui, c'est une tache de, c'est une maladie, je sais plus le... Ouais. C'est une maladie, c'est un champignon, je crois. Mm-hmm. Ça, je sais pas ce qu'il faut y faire. Mmh. J'avoue que moi, ce que je fais, je prépare des purins. Purins d'ortie, purins de consoude, purins de prêle. Et tous ces purins, ça m'aide à éliminer un petit peu les maladies. Ce que je fais aussi, je plante dans mes allées des soucis. Mmh. Des capucines, par exemple, aussi, ça aide par les systèmes des racines, ça aide, ça développe certains champignons. Parce qu'il faut savoir que les plantes, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, les légumes, ça utilise beaucoup les champignons. Mmh. Et c'est un moyen de lutter peut-être contre les maladies. Au début, j'avais ces maladies, cette maladie-là où mes tomates, elles devenaient noires. Et puis, c'est passé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien fait de spécial. Ce que j'essaie de faire, c'est de les soigner au maximum, de les surveiller. Quand il y en a une qui est malade, hop, je l'enlève. Voilà. C'est bien de surveiller, ne serait-ce que s'il y a des limaces qui viennent ou s'il y a des prédateurs, au petit matin, il faut un peu les éliminer, quoi. Alors moi, je ne les tue pas là, directement, mais je vais les donner à manger aux corbeaux, aux corneilles, ils se régalent. Voilà, alors pour la technique, c'est pareil. Pour les tomates, j'applique la même technique que les arbres. Je mets un petit bout de tuyau qui va en dessous le pied des tomates. Je fais ça pour les tomates, les courgettes, les courges, je fais pareil. Je mets une bouteille plastique dont j'ai enlevé le cul. Ça me sert d'entonnoir et je verse mon eau avec un arrosoir comme ça. Alors au lieu d'arroser en surface, en arrosant en surface, ça attire les limaces. Ça provoque des maladies. Et bien sûr, il faut arroser beaucoup plus, puisque avant que l'eau arrive jusqu'en bas du pied, ça met un certain temps et il faut en mettre beaucoup. Alors que avec cette technique, j'arrose, je mets quoi, 2 litres d'eau, 2 fois par jour, 2 fois par semaine.
Vous pouvez me réexpliquer comment vous faites ?
Alors, avant de planter mes tomates, on va prendre l'exemple des tomates, mais je fais ça pour tous les autres. Je mets un petit bout de tuyau, un petit bout de plymouth de 20-30 cm qui va jusqu'en dessous le pied de tomates. Et au-dessus, je mets une sorte d'entonnoir pour pouvoir vider facilement et surtout ne pas mettre des gouttes d'eau sur les feuilles parce qu'après, ça provoque des maladies. Voilà, donc après, je mets mon plant de tomates, je mets la bonne terre autour et en surface, je mets 10-15 cm de broyat. Broyat, ou maintenant ça s'appelle BFR, mais enfin bon, ce sont des copeaux de bois, des grossiers quoi. Et ça protège de la chaleur, ça empêche les mauvaises herbes, enfin les herbes indésirables de pousser, et ça nous permet surtout d'éviter les évaporations quoi, surtout de plus en plus il fait très chaud. Ouais. Voilà, par rapport au BFR. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est vrai que le BFR en se compostant en surface, il a tendance à absorber de la richesse du sol. Alors, ce que je fais, dans l'hiver, je mets un peu plus de fumier décomposé pour un peu plus enrichir la terre au départ. Parce que c'est vrai que le broyat a tendance à bouffer de l'azote. Et bon, après, ça affaiblit les plants si on laisse ça comme ça, c'est vrai. Et ce phénomène, ça se passe à peu près au printemps. Quand il recommence à faire soleil, quand il recommence à faire beau, le broyat en surface commence à se décomposer. Et c'est là qu'il ne faut pas manquer d'azote quand on met ses plants en route. Voilà, donc la petite astuce, voilà, c'est de compenser un peu, de mettre un bon fumier composté dans l'hiver. C'est juste après que je mets, une fois que le fumier s'est un peu décomposé, a commencé à pénétrer dans le sol, je recouvre de broyat, de 10-15 cm de broyat. Et deux ou trois fois dans la saison, j'en rajoute. Parce que le broyat se décompose et finit par se mélanger à la terre et enrichit le sol de toute façon. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, en arrosant comme ça, ça évite les limaces, elles sont moins attirées, parce que quand on arrose en surface, ben, les limaces, elles viennent.
Est-ce qu'on fait une pause musicale?
Ah, allez.
Allez, vous nous avez choisi donc Sidney Béchette, Petite Fleur. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Donc, nous sommes avec Mario Chabanon de France Nature Environnement. Et on retrouve un moment pour la Terre avec Mario Chabanon de France Nature Environnement 04.
Voilà, je voudrais vous parler un peu des certains prédateurs qui sévissent dans le jardin. Les limaces et les cagarolles, comme on dit du côté de Béziers, les cagarolles. Bon, j'ai fait plusieurs essais. Alors, j'ai essayé les cendres de bois. C'est efficace, mais il y a quelques inconvénients. Il peut y avoir déjà des limaces à l'intérieur de la zone qu'on a épandue en cendres de bois. Et s'il y a des limaces, bon, elles continuent à attaquer. Et s'il pleut ou s'il y a de l'humidité, eh bien, il faut renouveler régulièrement on est obligé de mettre des cendres. Et puis, je trouve que ça fait, ça transforme la terre, ça fait un trop gros apport de potasse, et ça a tendance à, les plants poussent au bout d'un certain temps, poussent moins bien. Bon, je ne parlerai pas des granulés chimiques. Par contre, j'ai fait un essai avec de la bière. Alors, c'est redoutable. La bière, c'est extraordinaire. Pendant une année, j'ai essayé de piéger et j'ai dû tuer au moins, parce qu'elle meurt, se noie dans la bière. Quelle belle mort, mais bon. Je sais pas, au moins 1000 limaçons et limaces, c'est extraordinaire. Et voilà, alors ceux qui veulent faire l'essai, il faut absolument mettre les pièges, mais à l'extérieur du jardin potager, pour en fait les éloigner. Je pense qu'elles peuvent venir de très loin, les limaces. Une astuce qui marche pas mal, ce sont les planches. Alors, à côté de ces allées, on peut mettre des planches assez épaisses et larges. On met un peu d'humidité dessous. Et dans le matin, quand le soleil commence à pointer, les limaces vont se planquer dessous les planches. Donc comme ça, on peut les ramasser tranquilles. Elles sont venues là. Bon, ce système, de toute façon, ça n'empêche pas le fait que de venir le matin, se promener dans son jardin, essayer de voir juste après la rosée, les limaces qui viennent manger encore quelques feuilles. Donc là, on peut les récupérer. Et voilà, comme j'expliquais, je vais les donner aux corbeaux et aux corneilles qui sont aux alentours. J'ai pas essayé le coureur indien, j'en ai entendu parler. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir fermer autour avec un grillage. Enfin, c'est un peu délicat.
Qu'est-ce que c'est, le coureur indien?
C'est un canard. C'est un canard, et ce qui paraît qu'il est, très performant. Il mange les limaces. Mais j'ai pas essayé. En fait, je pense que le plus efficace, ce sont les orvets, les crapauds, les hérissons, les lézards. Si on arrive à faire en sorte que ils peuvent venir habiter pas loin de votre jardin, et ça, c'est vraiment le plus performant, quoi. Voilà, je pense que quand je vois attaquer mes plantes par des limaces, bon ben voilà, on voit des traces, on voit donc en venant le matin, vraiment très tôt à la rosée du matin, on arrive à les voir et les ramasser. Bon, c'est un peu fastidieux, mais au bout d'un moment, il y a moins de limaces et on arrive à fonctionner normalement. Voilà pour ça. D'autres prédateurs, enfin, c'est pas vraiment des prédateurs, mais qui sont dérangeants, ce sont les pucerons. Alors, première chose qui m'a semblé efficace, c'est de laisser pousser autour du jardin et même dans le jardin potager des cardons, des fusains et autres plantes qui portent, entre guillemets, les pucerons, mais tout au long de l'année. Ce qui permet d'avoir en permanence les prédateurs. Et ils ils peuvent se développer, comme ça ils sont toujours là. Ça fait que quand vous avez quelques pucerons sur des plantes, ben eux ils peuvent venir les attaquer. Alors il faut savoir qu'il y a plein de prédateurs. Bon, on connaît bien la coccinelle, mais il y a les chrysopes, les syrphes. Voilà, il y a l'Aphidius coleman. C'est une micro-guêpe qui pond ses œufs dans le puceron. Ouais, c'est un parasitoïde qui est spécialisé. Alors, chaque puceron, d'après une amie qui est spécialiste là-dedans, m'a indiqué que chaque plante a son puceron. C'est pas le même que le rosier, que par exemple le fusain, ce sont pas les mêmes. Mais par contre, les prédateurs, ils choisissent pas. Il y a que cette micro-guêpe qui est adaptée à chaque puceron. Donc, c'est un phénomène extraordinaire. Les plantes émettent des phéromones qui attirent son puceron, sa micro-guêpe, et qui vient pondre dans les pucerons. Et malheureusement, toute cette merveilleuse nature est mise à mal par les pesticides. Voilà. Il y a aussi les aleurodes. Petite mouche blanche. Alors là, c'est assez facile. Bon, j'ai jamais été trop attaqué par les aleurodes, mais dès le départ, quand je vois qu'il y en a, je pulvérise avec une infusion de tanaisie. La tanaisie, c'est une plante qui fait des fleurs jaunes qui poussent jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 facilement. Et qui est très, qui a une odeur caractéristique. Donc je pulvérise avec mon infusion de tanaisie, et après je saupoudre avec de la poudre de roche. Et je dois dire que c'est assez efficace, hein, parce que voilà, c'est pareil, il faut surveiller les plantes, ne pas hésiter à retourner les feuilles afin de détecter les œufs coupables. Bon, il faut faire attention de ne pas confondre les œufs de coccinelle avec les œufs de doryphore, par exemple. Donc là, je ne vais pas poursuivre, parce que sur Internet, on peut avoir de très bonnes informations par rapport à la forme des œufs, à la couleur, tout ça. On peut arriver à s'entraîner un peu, à les reconnaître facilement. Voilà, alors je voudrais parler des installations qui m'ont permis d'améliorer mes conditions de jardinier. Je dois dire que j'ai eu un sévère accident il y a quelques années, et ce que j'ai dû faire, aidé par mon fils, j'ai installé un panneau solaire. Lorsqu'il reçoit les rayons du soleil, il enclenche une pompe qui me remplit deux réservoirs de 1000 litres chacun, qui sont à 1 mètre de hauteur après, à peu près, et ça me permet d'arroser mon jardin avec une eau qui est pas trop froide. Ça stresse moins les plantes. On a une eau qui est à peu près à température ambiante, quoi. Après, en coupant des réservoirs, j'ai installé des jardinières à environ 1 mètre de hauteur, rempli de bonne terre, et c'est bien agréable de pouvoir ramasser les haricots sans être obligé de se mettre à quatre pattes. Là, je les ramasse debout, et c'est bien agréable. Je mets des haricots, des salades, des radis, des choraves. C'est super. Et je remercie mon fils de m'avoir donné un coup de main pour faire toutes ces installations. Je voudrais parler aussi, avec un fût PVC de 200 litres, j'ai confectionné un lombricompost. Une trappe découpée en bas au ras du sol. Au-dessus, j'ai installé un grillage avec une maille très très fine parce que une fois j'en avais fait un autre et j'ai retrouvé un orvet qui s'était lové à l'intérieur et qui avait grossi et pouvait plus sortir par le grillage. Donc il faut une maille de 5 mm, ça marche très bien parce que les petites souris aussi peuvent aller dans le compost. Voilà, et les lombriques, les cloportes, colamboles, et les vers de cétoine, les staphylines et autres champignons décomposent les déchets de table qu'on peut mettre. Je ramassais, moi, nous sommes 5-6 familles dans le hameau où j'habite, et je ramassais tous les déchets de table et je le traitais de cette façon. Ce qu'il y a, il faut savoir que les lombriques et les autres animaux qui participent à décomposer les déchets de table craignent le trop chaud et craignent le froid. Donc il faut arriver à trouver un emplacement à l'ombre en été et protégé du froid en hiver. Parce que sinon, ils ont tendance à mourir et pour relancer le composteur, c'est plus difficile. Voilà. Je voudrais vous parler aussi de... Un ami m'a donné une armoire présentoir de pâtissier. Alors avec cette armoire, elle fait 50 cm par 50 à peu près et sur 2 mètres de haut. Et j'ai fait une ouverture en bas pour faire une prise d'air avec un grillage pour pas que les souris et les animaux viennent. Et en haut, j'ai installé un petit un petit ventilateur qui marche solaire aussi, ce qui permet de faire une circulation d'air. Et la chaleur devant, parce que la porte c'est un double vitrage et elle est un peu l'armoire est un peu isolée de chaque côté. Et il faut bien faire attention de mettre des étagères plutôt bien aérées, parce que de façon à ce que le flux d'air circule facilement et ça permet de dessécher les fruits et les légumes. Et c'est assez efficace. J'avoue qu'il y a une grosse température dans cette armoire. Voilà. Je voudrais vous parler, bien sûr, dans le cabanon, au fond du jardin. J'ai installé des WC sans eau. Water sans eau, on appelle ça. Hein, water sans eau. Avec un vieux potiporti. Ces toilettes dites WC chimiques, j'ai acheté ça, j'avais trouvé ça sur le bon coin, ou je sais plus quoi. Ce sont des WC utilisés dans les caravanes. J'ai découpé le fond et posé ça sur une poubelle, bien de façon hermétique, de façon à ce que les insectes ne passent pas. Et c'est très efficace. On a une lunette, on a une trappe, un petit couvercle, un réservoir d'eau avec un petit peu d'eau et un seau de copeaux à côté permet de faire fonctionner très bien le WC. Et voilà, j'ai installé ça dans un petit cabanon. C'est pour ça que je rappelle le chanteur, le cabanon au fond du jardin.
C'est ce qu'on appelle les toilettes sèches.
Voilà, des toilettes sèches. Voilà, exactement. C'est exactement pareil. Voilà, puis après, je les utilise. Je vide cette poubelle dans une plus grande poubelle, spécialisée pour ça, parce que je laisse les lombriques faire leur boulot, là aussi, et ils aiment bien, ça leur convient bien. Et j'utilise cet engrais pour les arbres fruitiers. Je le mets pas dans le potager. Je pense que je pourrais. Les anciens, ils le faisaient. Ça aurait pu marcher, quand même.
Est-ce qu'on fait encore une pause musicale?
Une petite pause musicale.
Allez, et puis on termine. Alors, on va écouter Paolo Conte, Comédie.
Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. 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 Wah, 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 wah. Wah, wah, wah.
guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, ah, come di, come di, la comédie d'un jour, d'un jour ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, wow, 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 wow. Wah 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 wah. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di, come di, d'ange. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui, come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel, ah, come di, come di, come di. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la
la la la la. Non. Comédie de Paolo Conte. L'émission touche bientôt à sa fin. Mario Chabanon, donc beaucoup de conseils sur le jardinage bio et c'est vraiment très intéressant. Vers quoi vous nous amenez cette fois?
Alors, on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais un petit peu insister. Je laisse pousser tout autour et dans mon jardin potager et dans tout le terrain, les plantes elles viennent comme elles veulent. Donc, j'utilise de la tanaisie. Cette tanaisie qui est répulsive pour les insectes. On peut l'utiliser en purée, mais on peut l'utiliser aussi en infusion. Des fois, je coupe les herbes, je les mets dans mes allées pour essayer de repousser les insectes prédateurs. Bon, il y a la prêle qui pousse naturellement dans mon terrain. J'ai la chance d'être sur une nappe et la prêle elle pousse. Surtout en début de saison, j'arrose mon jardin avec un purin de prêle. L'ortie, bien sûr, c'est bien connu. Hein, l'ortie est riche en minéraux, donc on peut faire un bon purin. Et au moment de la plantation, c'est bien utile. Et une grande utile aussi, c'est la grande consoude. Je l'utilise en purin. Alors on dit, les techniciens vous disent, il faut tant de grammes par litre d'eau. Enfin, moi je fais ça, comme on dit en Provence, à bistaud de nas. Hein. Voilà, et les pousses de sol, j'ai appris ça assez récemment. Les pousses de sol, on s'en sert comme hormone de bouturage. Mais aussi, quand on a des plants qui sont un peu maladoux, on peut faire un purin et répartir au pied, comme ça. Et dans mon jardin, dans le jardin potager, je laisse pousser tout un tas de plantes, comme le souci, comme la nigelle, comme l'amarante. Ça fait que mon jardin, il est plein d'herbes. Il est plein d'herbes. Quand les gens qui connaissent les jardins très bien tenus, avec plein de glyphosate, tout ça, il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais moi, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'herbes. Voilà, alors souci, nigelle, amarante, les pourpiers, les pissenlits, la mélisse, la capucine sert bien aussi, l'œillet d'Inde et la chénopode qui sert, qu'on peut manger. Alors on peut manger le pourpier, on peut manger la chénopode aussi. Voilà, mon jardin. Je dis toujours à mes amis qui viennent, qui me font le plaisir de venir le découvrir, que mon jardin, c'est ma thérapie. J'ai pas besoin de méditer. Lorsque je musarde dans mon jardin, mon esprit est totalement au repos. Les insectes qui pollinisent, les courges et les courgettes, un papillon qui recherche une partenaire. Je ne fais pas de bruit pour pas déranger le petit duc qui monte la garde auprès de son nichoir. Mon cerveau s'évade, je ne pense plus au changement climatique et aux dirigeants qui ne font rien, je ne pense plus aux pesticides épandus par mes voisins, je ne pense plus aux déchets qui ne sont toujours pas triés. Mes méninges sont off et je me laisse bercer par la nature et les parfums et les chants d'oiseaux.
Merci beaucoup, Mario Chabanon. Vous avez toujours jardiné, vous avez appris par des livres ou par la famille, par...
Oui, au début j'ai essayé de prendre des livres, je dois avouer que ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi de jardiner comme ça, de façon aussi rectiligne, aussi engoncée dans un corset. Ce sont des images. Mon papa aussi aimait bien faire le jardin, mais il faisait un petit jardin tranquille, il avait quelques arbres fruitiers, mais je dois dire qu'il a dû me donner ce goût du jardin, puisque une fois que j'ai élevé mes enfants, tout ça, je me suis plongé dans le jardin vraiment. Et puis, j'ai toujours fait des expériences, j'ai toujours fait des essais, une chose qui marche mieux qu'une autre, et petit à petit, on arrive à trouver son chemin. Il faut savoir que chaque jardinier a son terrain, a sa façon de voir les choses et opère différemment.
En tout cas, vous parlez beaucoup de purin, c'est presque obligatoire de...
Ah oui, je dois vous avouer que je suis un terroriste. J'aime le terreau. Je suis un céréal trieur aussi. Et le purin, les purins et le compost aussi, je composte beaucoup. Maintenant, j'ai acheté un petit broyeur, ce qui va me permettre de faire encore plus de compost. Mais sinon, j'arpentais le bord des routes avec une remorque. J'allais ramasser les broyats qui étaient faits par les gens qui font l'entretien du bord des routes. C'est vrai que le compost est très très efficace dans le jardin, quoi. J'ai une terre qui est assez riche, hein, je peux pas dire. C'est une terre lourde, argileuse, mais il faut absolument justement l'alléger avec du compost. Alors quand on a une terre trop légère, il faut l'amender avec du compost pour la rendre plus riche. Le compost, il est toujours bienvenu dans le jardin.
Est-ce que vous-même, vous transmettez à vos enfants ? Vous avez transmis ce goût du jardinage ?
Oui, je pense que mon fils, à ma grande joie, mon fils est passionné de jardin et souvent il me dit des choses que je ne connais pas et ça fait énormément plaisir.
Merci beaucoup et puis bonne journée et à bientôt sur Fréquence Mistral.
Merci.
Au revoir.